2 Thessaloniciens. La Bible dit ceci au verset 7. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Le mystère du mal est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de produits, dis-je, mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. La Bible dit au verset 10, pour ceux qui périssent, quelle est la raison? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc nous allons parler de l'amour de la vérité. Ces gens-là périssent parce qu'ils n'ont pas reçu cet amour. Et quand on dit recevoir dans la Bible, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui dépend de la personne qui donne. Donc quand quelqu'un n'a pas reçu, c'est possible qu'on ne lui ait pas donné. Mais quand la Bible dit recevoir, ça veut dire que la personne a refusé de prendre. Donc la Bible, quand elle dit recevoir, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui n'a pas donné, c'est pourquoi tu n'as pas reçu. Donc c'est donné. Mais les gens, il y en a qui refusent de prendre cet amour de la vérité. L'amour de la vérité est donné à tout humain, proposé à tout humain. Mais ce n'est pas tout le monde qui prend ça. La vérité, c'est la transparence. La vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Lorsqu'on regarde Jésus, on observe Jésus, on voit toutes les qualités du Dieu créateur, du Dieu infiniment bon, infiniment puissant. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a calmé la tempête. La tempête, c'est quelque chose d'infini, d'insaisissable, d'incontrôlable. Aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques, les moyens astronomiques qu'on a, on n'est même pas capable de calmer le vent. Rien que le vent, on ne peut pas le calmer. Mais la tempête, c'est encore plus fort. Mais Jésus a dit à la tempête, silence. Donc, quand on observe Jésus, on se dit, mais c'est ça la vérité. J'ai toujours cherché la bonté, voilà la bonté. J'ai toujours cherché l'amour, voilà l'amour. J'ai toujours cherché quelqu'un qui aime les autres, qui peut se sacrifier pour les autres, le voilà. J'ai toujours cherché quelqu'un de tout puissant. On lit, quand on était enfant, on a lu des histoires sur des gens puissants, Superman, Spider-Man, donc on a lu tout ça. Mais ces gens-là, ce sont des imaginations des dessins animés. On les a jamais rencontrés de telles personnes. On n'a jamais rencontré un policier comme Spider-Man qui puisse arrêter tous les voleurs de la ville. On n'a jamais rencontré ça. Les voleurs continuent à faire ce qu'ils veulent. Les Lucky Luke. Donc, on n'en a jamais vu. Donc, les voleurs continuent à travailler, les bandits continuent à travailler. Mais quand on rencontre Jésus, on se dit, mais voilà celui qui est capable de voir, de connaître Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts et il volait les gens. Quand Jésus le rencontre, Zachée demande pardon et il change de métier, il devient juste. Parce que Jésus-Christ était meilleur que tous les policiers du monde. Il savait arrêter les gens au bon moment et il ne recommençait plus. Bien-aimé, quand on observe tout ça, on dit voilà la vérité. Quand on observe Jésus, on dit mais je cherchais quelqu'un qui soit capable de vivre sans tomber dans le vol, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'orgueil. Le voilà. Le voilà qui meurt à la croix et qui dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le voilà qui est préféré, on préfère un bandit. Vous savez, le verset des gens qui en parlent m'a toujours fait du mal. C'est comme si on me donnait une pointe dans le cœur, on me mettait une pointe dans le cœur. Lorsque Jean dit « Et le peuple a réclamé la sortie de Barabbas, la libération de Barabbas. » Et il y a une toute petite phrase que Jean rajoute. « Or, Barabbas était un brigand. » Donc, Jean dit, mais c'est pas possible. On préfère qu'un brigand soit libéré. Mais Jésus a observé toutes ces choses-là. Mais il a pardonné à tous ceux qui ont fait ça. Donc quand on observe Jésus, on dit, mais c'est ça qui doit être. C'est ça, non seulement qui est, mais c'est ce que nous voulons qu'il soit. C'est la vraie vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est aussi la réalité. Reconnaître, tiens, je suis noir. Reconnaître, tiens, mes cheveux sont crépus. Reconnaître, tiens, eh ben, j'ai des problèmes avec telle nourriture. J'ai des problèmes avec tel comportement. Reconnaître, tiens, ma famille est pourrie. La vérité, c'est reconnaître la réalité. La réalité est là. Tu ne peux pas l'inventer. Reconnaître, tiens, mes enfants ne m'obéissent plus. Tiens, mon mari, on dirait, il ne m'aime plus. Donc, il faut reconnaître la réalité. Il ne faut pas la fuir. Il faut la reconnaître. Il faut être transparent. Il faut être franc. C'est ça la vérité. La vérité, c'est reconnaître que, tiens, mais je suis petit, d'autres sont plus grands que moi. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Et tout ça, bien-aimé, nécessite qu'on accepte cet amour-là de la vérité. Il faut qu'on dise, je préfère aimer la vérité. Je ne veux pas le mensonge. Et bien aimé, ça fait très mal à Dieu de voir les gens refuser d'aimer la vérité. Parce que Dieu sait ce qui va se passer et ce qui se passe déjà. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'il y a des cérémonies où on donne des prix à des chrétiens parce qu'ils ont été la meilleure voix de l'année, la meilleure artiste de l'année. Et je connais dans un pays même d'Afrique, on nomme par les journalistes le pasteur de l'année. Mais tout ça, ça se passe au milieu des chrétiens. Mais bien aimé, je peux vous dire qu'il y a 30 ans, si on le disait, tout le monde allait crier, c'est horrible! C'est absurde, mais ça commence à se passer. Et nous voyons le monde chrétien pollué. Et c'est écrit que tout cela se produira par la puissance de Satan, verset 9, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Bien-aimé, quand quelqu'un dirige une assemblée, une salle qui peut contenir 20 000 personnes, c'est un miracle, c'est un prodige. Je me demande comment le service d'accueil s'organise. Je me demande comment, quel service de caméra ils ont. C'est un miracle, chaque dimanche, d'avoir 20 000 personnes. Et tout ça, quand on voit ça, on dit, mais non, Dieu est avec eux. Mais la Bible dit, ces gens-là produiront, feront des choses extraordinaires. Et ce n'est pas que Paul qui le dit. Le Seigneur, Jésus lui-même le dit dans Luc, dans Matthieu 24. Matthieu 24, 24, nous gardons toujours la page des 2 Thessaloniciens parce que c'est notre passage principal. Matthieu 24, 24. Car il s'élèvera, donc je commence au verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, des jours difficiles. Parce que ça sera très compliqué, très compliqué. Ces jours-là seront abrégés. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ou il est là, ne le croyez pas.
car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas, dit Jésus. Bien-aimés, vous pensez que si c'est quelque chose que nous, on pouvait remarquer facilement, on nous préviendrait? Si Dieu nous prévient, c'est que c'est quelque chose qui nécessite qu'on soit prévenu sérieusement. Ça veut dire que même certains chrétiens vigilants risquent de se faire avoir juste parce qu'ils négligent certaines vérités. La Bible dit, tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, eh bien, seront séduits. Vous voyez la différence? La Bible ne dit pas, tous ceux qui auront la connaissance de la vérité. Non. Auront reçu l'amour de la vérité. Ce n'est pas tous ceux qui connaissent le contenu de la Bible. C'est tous ceux qui aiment le contenu de la Bible. Tous ceux qui aiment la transparence. Tous ceux qui acceptent la réalité telle qu'elle est et qui demandent que la vision de Dieu s'accomplisse. Parce que c'est ça l'avertissement. Parce que Paul est en train de parler aux chrétiens. Donc ils sont censés tous connaître des versets bibliques. Ils connaissent tous. Mais il leur dit, ceux qui n'ont pas l'amour de ces choses-là, ces gens-là qui viennent parce qu'il y a une partie morale, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, mais qui en réalité n'acceptent pas le tout. La simplicité qui est dans la Bible, la pureté. Vous savez, aujourd'hui, bien-aimés, c'est incompatible entre servir Jésus et chercher à être connu. C'est deux choses incompatibles. Mais circuler dans la majorité des églises qu'on appelle évangéliques, on vous dira qu'il faut marquer votre temps. Donc il faut que dans votre temps vous soyez connu. On vous dira qu'il faut que vous manifestiez une certaine puissance que les païens voient. Bien-aimés, Jésus a dit, c'est lui qui allait agir. Il ne pousse pas les chrétiens à rechercher, à faire des choses que les païens voient. Donc Jésus a dit, c'est lui qui sera avec nous tous les jours et il fera des choses, les gens seront étonnés. C'est Jésus lui-même qui s'engage. Il ne nous demande pas de nous inquiéter de cela. Il nous dit de chercher d'abord la vérité, le royaume de Dieu. Alors, quand vous circulez, moi je suis chrétien, ça fait un moment, quand vous entendez tous ces enseignements-là, mais c'est le contraire de ce qui est écrit. C'est le contraire. C'est parce que les gens ne veulent pas accepter la réalité. La réalité, c'est quoi? Ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons quelque chose. C'est Dieu qui peut. La réalité, c'est qu'un vrai chrétien se sentira toujours petit par rapport à la mission de Dieu, mais il aura toujours la foi que Dieu est assez grand pour accomplir sa propre mission. Élie s'était senti petit. Élisée s'était senti petit. Tous les vrais de Dieu, Moïse s'était senti petit. David s'était senti petit. Tous les vrais de Dieu savent toujours qu'ils sont petits. Et c'est Dieu qui est grand. Et aujourd'hui, à notre époque, on veut nous forcer, nous, à être grands et avoir moins besoin de Dieu. Ce n'est pas, c'est le contraire. C'est déjà là, le mystère de l'iniquité. Souvenez-vous, dans Thessaloniciens, on appelle ça le mystère. C'est un mystère. Ça veut dire que ce n'est pas facile à saisir. C'est un mystère. Et un mystère de Dieu, seul Dieu peut t'expliquer ça. Mais il y a une condition qui est fixée. C'est recevoir. Accepter l'amour de la vérité. C'est la condition, bien-aimé. C'est la condition. Dieu ne nous dit pas de marcher dans la vérité par nous-mêmes. Il dit d'accepter l'amour de la vérité, d'aimer la vérité. Même si tu te sens faible, aime la vérité. Il ne faut pas parce que tu te sens faible que tu veux que la vérité s'adapte à ta faiblesse. Tu dis, les choses sont A, mais moi j'ai tendance à B. Mais je crois que Dieu peut me faire passer de B à A. Voilà le lien qui nous amène à vaincre la foi. Mais nous devons aimer la vérité. La réalité est compliquée, compliquée. La séduction est devenue très, très subtile. Très, très subtile. Et nous avons besoin d'aimer la vérité, d'aimer la réalité, d'aimer ce que Dieu propose. Et nous allons lui demander dans la prière de nous aider à aimer ça. Maintenant, nous allons voir quelques détails qui font que nous n'aimons, les hommes n'aiment pas la vérité de Dieu. Ils n'aiment pas la réalité. Nous allons voir ce qui s'oppose à l'amour de la vérité, afin qu'une fois pour toutes, on prenne position là-dessus. Et quand on va prendre position là-dessus, on pourra recevoir cet amour de la vérité. Premièrement, c'est le refus de la conception de Dieu. Le refus de ce que Dieu dit. Un exemple simple. Il y a des gens qui sont chrétiens qui ont du mal à croire à l'histoire de l'arche de Noé. Il y a des gens qui sont chrétiens qui disent que nous venons du singe. Même quand on contredit ça, ils disent, mais les pasteurs sont obligés de contredire, mais la réalité est là quand même, on ne va pas dire... Voilà. Il y a des gens qui ont du mal à croire que les choses se sont passées à partir d'Adam. Si on compte à peu près, ça fait environ 6 000 à 7 000 ans. Les gens disent, mais non, la science prouve que c'est des millions quand même. Bien aimé, c'est des gens qui sont bloqués par rapport à l'amour de la vérité. Peut-être qu'ils croient en d'autres choses qui sont dans la Bible, c'est bien. Mais ils n'ont pas reçu cet amour pour dire, c'est moi qui ai un problème, Dieu a raison. Ils n'acceptent pas totalement ce que Dieu dit. Il faut accepter totalement ce que Dieu dit. Il faut, bien aimé, il y a des gens qui ont du mal à croire, à accepter plutôt qu'on puisse pardonner quelqu'un qui a voulu tuer ton enfant. Qu'on puisse pardonner à quelqu'un qui a même tué ton enfant. Ou violer ton enfant. Il y a des gens qui ont du mal à croire à cela. Pour eux, oui, mais pasteur, nous sommes des humains. Vous savez, les gens qui disent toujours, oui, mais nous sommes des humains, c'est des gens qui refusent la conception de Dieu. C'est le premier élément. Accepter comment Dieu conçoit les choses. Dieu conçoit qu'on pardonne. Dieu conçoit qu'on se soumette aux autorités. Dieu conçoit qu'on se soumette à son mari. Dieu conçoit qu'on se soumette à ses parents. Dieu conçoit qu'on se soumette les uns aux autres. Il faut accepter la conception de Dieu. Dieu conçoit que ce qui est de la terre est passager, donc est moins important que ce qui est du ciel. Il faut accepter cette conception. Parce que si tu n'acceptes pas cette conception, tu chercheras une sorte de perfection humaine terrestre que Dieu ne réclame pas. Parce que s'il réclamait ça, eh bien, il nous laisserait des exemples dans la Bible. Mais lorsqu'on voit la vie de Joseph, jeté dans un puits, vendu esclave, prison, accusé d'impudicité, faussement. Lorsqu'on voit une vie comme ça, 20 ans sans voir ses frères et sœurs, ses frères et ses sœurs et sa famille, bien-aimée. Lorsqu'on voit la vie d'Élie, il vivait presque dans le désert, avec des vêtements d'animaux. On voit la vie de Jean-Baptiste. On voit la vie de Jésus lui-même. On voit que Dieu attache pas beaucoup d'importance aux choses de la terre. Alors changeons de conception. Acceptons cette conception. On va dire qu'on croit en Dieu, mais on veut prendre le Dieu de l'Amérique, le Dieu de la conception américaine. Où donc on doit réussir à avoir des grandes entreprises, avoir des grands bâtiments, tout ça. Il faut arrêter avec cette conception. Notre Dieu est discret. Élie n'était pas là tout le temps à faire des exploits en public. Les exploits, il les a fait en cachette parfois, en général encore. Vous savez, Jésus a dit une chose. Du temps d'Élie, il y avait plusieurs veuves en Israël, mais Élie n'a pas aider les veuves d'Israël, mais elle a aidé une veuve étrangère. Donc on voit bien qu'Élie n'avait pas... Aujourd'hui, quand on lit leurs histoires, on a l'impression qu'à leur époque, ils avaient beaucoup de succès, comme on voit les faux pasteurs d'aujourd'hui à la télé, avec les présidents, tout ça, faire prêter les serments. Non, les Élie, ils n'étaient pas comme ça. C'est parce qu'on lit maintenant qu'on a l'impression qu'ils avaient beaucoup de succès. Quelqu'un qui lit Watchman Nee aujourd'hui, il va croire que Watchman Nee, à son époque, il avait beaucoup de succès. À l'époque où le livre était écrit, oh, lui, il était en prison, il a fait 20 ans en prison. Donc pendant que ses écrits étaient distribués dans le monde entier, lui, il était en prison. Donc il n'avait pas le succès que personnel, il ne vivait pas ce succès-là. Donc, puisque quand on lit quelqu'un après, on se fait une idée. Les Paul n'avait pas le succès que nous, on lui donne aujourd'hui. Parce que Paul, il était souvent contesté dans les églises. Quand on lit 2 Corinthiens, on voit comment il défend son apostolat. Vous vous imaginez avec tous les miracles qu'il faisait, avec la connaissance qu'il avait, mais il était contesté. Donc, ce n'était pas facile pour Paul. Lisez les écrits de Paul, vous allez voir que ce n'est pas quelqu'un qui était accepté facilement dans les églises comme ça. Non, il devait toujours démontrer qu'il était de Dieu. Aujourd'hui, quand on lit, on pense que Paul avait un succès. Non, Dieu agit toujours discrètement. Alors que c'est les apôtres Pierre, Jean, Jacques qui étaient connus, qui étaient les gens qui étaient près de Jésus, eh bien, Dieu va utiliser un inconnu, Paul, pour faire beaucoup d'écrits pour l'Église. Mais discrètement, à son époque, ce n'était pas comme nous, on le voit aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui, qui veut accepter cette discrétion? Tout le monde veut chanter et un jour passer dans des télés, passer. Non, Dieu nous demande de le servir. Il ne nous demande pas de nous faire connaître, juste le servir. Toutes ces conceptions-là, bien-aimés, acceptons ça. C'est la Bible, c'est dans la Bible. Rejetons les conceptions qu'on nous a mises, moi le premier, à un certain moment de notre vie. Revenons aux conceptions de la Bible. Dans la Bible, c'est la discrétion. Paul marchait de région en région. Paul n'était pas quelque part dans une église remplie de 10 000 personnes en train de gérer. Non. Il marchait. Il était discret. Mais nous, c'est nous qui en lisant, avons l'impression qu'il avait beaucoup de succès. Non. À l'époque de Paul, il n'était pas le seul à faire des miracles. Il y avait d'autres serviteurs qui faisaient des miracles. Il y avait des réveils à gauche, à droite. Il y a des endroits où Paul arrivait, il trouvait déjà, il y a des gens qui sont passés là, qui ont travaillé. Et lui, il venait asseoir par le ministère apostolique qu'il avait. Mais des gens avaient travaillé, Dieu avait fait des merveilles. Les 4 filles de Philippe, elles prophétisaient. Il y avait des gens qui faisaient des merveilles, mais c'était la discrétion, ce n'était pas la pub. Acceptons cette conception-là de discrétion. Acceptons de naître chanteur, de mourir sans faire un CD si Dieu ne veut pas. Mais tes chansons chantées dans le monde entier, personne ne sait peut-être que c'est toi qui les as composées. Acceptons que, comme Jean-Baptiste, que je m'efface, que lui, il soit présenté, que Jésus soit présenté. Acceptons ça. Ça, c'est la conception de Dieu. Acceptons les conceptions de Dieu. Acceptons ce qui est écrit, que c'est ça qui est bien. Ne disons pas, oui, mais ça c'est bien de parler comme ça, mais la réalité, c'est la conception de Dieu. La conception de Dieu est éternelle, mais les choses de la terre passeront. Acceptons ce que Dieu dit. Ça commence par là. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais le Saint-Esprit nous parlera. Nous devons, deuxièmement, rejeter la fierté et l'orgueil personnel. C'est ce qui nous empêche d'accepter l'amour de la vérité. Parce que la vérité, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant l'autre séance, la séance précédente, la vérité nous montrera toujours notre image de petit. La vérité nous montrera toujours que ça y est, le papier peint qu'on a est moins beau que le papier peint de la sœur Intel, du frère Intel. C'est ça la vérité. Il nous montrera toujours que ces choses-là sont tellement rien que tu vois, tu, malgré tout ce que toi tu as fait, tu envies l'autre. Donc c'est ça la vérité. On voit bien que, ben tiens, ce que j'ai mis, je croyais que c'était le top, mais j'envie toujours l'autre. La vérité nous montrera que notre voiture est moins belle, finalement, que la voiture d'un tel. Parce que, en réalité, la vérité nous dit quoi? Toutes ces choses sont vaines. Voilà que tu as quelque chose qui coûte plus cher qu'une autre, mais tu as envie celle qui est moins chère. C'est la vérité. La vérité nous montrera toujours petit. La vérité nous montrera toujours qu'on est incapable. Parce que c'est la vérité. On est incapable, on est faible. La Bible dit dans Jean 15, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ne vous en faites pas. Ne vous attendez pas à ce que la vérité vous montre que vous êtes fort. Vous vous trompez parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit nous ne sommes capables que par le Seigneur. La vérité nous montrera les humains tels qu'ils sont. Et ça nous humiliera. C'est clair. La vérité, la réalité va faire qu'au travail, on préfère quelqu'un d'autre à toi. C'est la réalité. Tu ne peux pas fuir ça. Tu ne peux que l'affronter avec la grâce de Dieu et la parole de Dieu. Et la fierté et l'orgueil nous pousseront toujours à vouloir prouver qu'on a raison, qu'on est grand, qu'on est fort, qu'on est beau, qu'on est excellent, qu'on a raison. La fierté et l'orgueil nous pousseront toujours à ça. Malheureusement. Or, la Bible dit, ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un dispute avec toi un vêtement, donne-lui un deuxième. La Bible dit, ne cherche pas à prouver à tout prix que tu as raison. Fais ce que Dieu te demande de faire. Mais l'orgueil et la fierté nous pousseront à démontrer qu'on a raison. Nous pousserons à prouver qu'on a raison. Pas que Dieu a raison, mais que nous, on a raison. Or, la Bible dit que c'est Dieu qui défend ses serviteurs. C'est ce que dit la Bible. L'orgueil et la fierté personnelle, charnelle, sont des choses très, très, très dangereuses. Acceptons d'être vus comme des petits. Et c'est ce que dit la parole, le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est le plus grand. Acceptons cela. Et déjà, ça nous éloignera de l'esprit de mensonge qui anime beaucoup de gens, même qui sont apparemment en Christ. Car en Christ, il y a aussi des enfants en Christ. Malheureusement, ces enfants en Christ sont encore animés des choses du monde. Troisième point, bien-aimé. Acceptons de perdre nos intérêts. La défense de nos intérêts nous pousse au mensonge. Mais quand tu n'as rien à défendre, pourquoi tu mentiras? En réalité, on ment pour défendre nos intérêts. Et on n'aime pas la vérité parce que la vérité est prête à nous donner tort et à nous faire perdre nos intérêts. Parce que la vérité n'est pas partiale, elle est impartiale, elle ne prend pas parti, elle laisse les choses telles que, elle montre les choses telles qu'elles sont. Ne cherchons pas à défendre nos intérêts. Si on cherche à défendre nos intérêts, à défendre un poste, à défendre un titre, à défendre notre argent, à défendre notre maison, on finira par mentir. Combien de gens ont menti aux impôts parce qu'ils ont voulu défendre leurs intérêts? Combien de gens ont des entreprises, ils font une fausse comptabilité parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts? Combien de gens mentent à leurs membres de famille parce qu'ils veulent défendre leurs intérêts? Du moment qu'on apprend à nous dépouiller de nos intérêts, on commence à entrer dans l'amour de la vérité. Acceptons de perdre nos intérêts et on ne sera plus obligé de mentir. Un autre point, bien-aimé, refusons de nous attacher une étiquette. Les étiquettes tuent. Quand on a longtemps fait quelque chose, brillé dans quelque chose, gagner dans quelque chose, on finit par s'attacher une étiquette. Étiquette d'homme intelligent. Étiquette de femme intelligente. Parfois, ce n'est pas nous, c'est les autres. Vous voyez, quand quelqu'un joue bien au football, on lui donne le nom d'un grand footballeur, un surnom d'un grand footballeur. Parfois, c'est les autres. Ils nous attachent une étiquette. Parfois, les autres qui nous attachent une étiquette, comme quoi nos cheveux sont beaux. C'est les autres. Ah, mais tes cheveux! Puis un jour, personne ne le dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque personne ne me le dit, il faut qu'on me le dise. Donc je vais forcer. Je vais essayer de mentir, prendre tel produit pour faire paraître mes cheveux tels qu'ils ne sont pas. C'est ça, parce qu'on n'entend plus l'étiquette. On dit, ah, il prêche bien. Et pour toi, c'est devenu une étiquette. Donc le jour où on ne dit pas que ça a été bien pendant un mois, deux mois, eh bien, qu'est-ce que tu vas chercher? Comment faire pour réentendre l'étiquette? Il y en a qui ont même l'étiquette, oh, ils s'habillent bien. Eh bien, on te lit. Le jour où tu vois quelqu'un avec des nouvelles chaussures que toi, tu n'as pas remarquées dans les boutiques de Saint-Sever ou... alors, tu vas vite à Paris vouloir équilibrer, bien-aimé. Parce qu'il y a une étiquette sur toi. Elle s'habille bien. Mais là, on commence à dire à quelqu'un d'autre, elle s'habille bien. Tu veux maintenant défendre ton étiquette. Il y en a même qui ont des étiquettes comme quoi c'est quelqu'un de ferme. Mais au moment où il faut être doux, toi tu vas être ferme maintenant. Donc tu vas tout fermer. Et donc c'est, bien-aimé, parce que tu as une étiquette, tu veux montrer à tout prix que moi je suis ferme. Non, mais là il faut être doux. Tu vas vouloir être ferme devant le président de la République. C'est toi qui vas te faire fermer, bien-aimé. Donc il y a des moments où il faut être doux. Et là, tu veux être ferme. Parce qu'il y a une étiquette attachée à toi. Il est ferme, lui. Il y a des gens qui ont dit, « Ah, lui, laisse pas le temps aux gens. Si tu fais un écart, il te redresse. » Alors toi aussi, tu entends ça. Voilà mon grade. Et donc, là où il faut laisser le temps, tu ne laisses plus le temps. Ben, non, voilà. Or, la Bible dit, « Toute chose en son temps. » À chaque temps, à chaque chose, son temps. Donc on ne peut pas mélanger. Attention aux étiquettes. Étiquette de pasteur. Attention. Tu arrives quelque part, tu veux qu'on te reconnaisse comme pasteur, mais tu n'es pas le pasteur du coin. Tu arrives quelque part, tu veux qu'on te considère comme étant prophète, tout ce que tu veux, parce que quelque part, on t'avait donné cette étiquette-là. Comme on a reçu des gens ici, ils viennent, bon... Moi, pasteur, je suis intercesseuse internationale, tout ça, moi, je dis, mais bon, dans ce cas, on va te chercher une équipe. Nous, on est une équipe locale. Donc, il te faut une équipe internationale où tu vas jouer donc, avec les Zidane. Nous, ici, on se contente des Rouennais, bien-aimés. Non. Donc, on vient avec une étiquette et on va chercher à défendre ça. Et pour cela, on va faire quoi? On va mentir. On est obligé de... Mentir, comme on l'a vu pendant toute cette journée, à des parents, c'est le fait de vouloir paraître, le fait de vouloir donner une apparence. Et en voulant se donner une apparence, forcément, on ment toujours. C'est automatique, hein? On ment toujours. Comme aujourd'hui, les gens mentent en disant, il y a eu 4000 personnes pendant les 3 jours d'évangélisation. Pourquoi? Parce que le premier jour, ils ont compté 1500, le deuxième 1500, le troisième 1000. Donc, et ils font le total, ça fait 4000. Mais non, ça ne fait pas 4000. Puisqu'il y a des gens du premier jour qui sont venus le deuxième jour aussi et qui sont venus le troisième jour. Donc, on ne peut pas compter 1000, la même personne la compte 2 fois. Non, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître. En voulant paraître, on finit toujours par mentir. On finit toujours par mentir. Restons, ne cherchons pas à ce qu'on nous attache une étiquette ou que soi-même on s'attache une étiquette. C'est comme il y a des gens qui se sont laissés attacher l'étiquette. Lui, il est tranquille dans sa famille ou elle est tranquille, il n'y a pas de problème. Et donc, maintenant quand il y a des problèmes, alors que les frères peuvent nous aider, bon, on veut conserver cette étiquette-là, on ne veut surtout pas, et on meurt tout seul. On se laisse mourir et les gens vont apprendre seulement que quand c'est grave et irrécupérable parce que tu as voulu défendre une étiquette. Ne laissons pas les étiquettes. Laissons Dieu être notre étiquette. Cette étiquette-là ne s'enlève jamais. Si Dieu est avec toi, il est fidèle, il sera toujours avec toi. Il ne se répand pas de son engagement. C'est ça qui est important. Bien-aimé, attention, bien-aimé, à autre chose, à la faiblesse. Moi, j'appelle ça faiblesse, de vouloir plaire aux hommes. La Bible dit dans Galates 1, chapitre, verset 10, « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. » attention à vouloir plaire aux hommes, satisfaire le bon vouloir, les désirs des humains. Nous sommes là pour servir les humains, mais dans ce que Dieu nous demande de faire, mais pas de satisfaire les humains dans ce qu'ils veulent qu'on fasse. Et beaucoup servent Dieu pour plaire aux humains. Ça aussi, c'est très, très dangereux. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Nous passons à un autre point, la volonté de manipulation. Quand on veut persuader l'autre à adhérer à notre logique, on est déjà dans la manipulation. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, « Quand je suis venu parmi vous, je suis venu avec la simplicité de l'Évangile. Je n'ai pas employé des arguments persuasifs du langage humain, mais je suis venu avec le pouvoir de l'Esprit. Un chrétien ne doit pas compter sur la persuasion, mais sur la puissance de l'Esprit. Mais lorsqu'on veut manipuler les gens, on veut s'imposer sur les gens, on finit par mentir. Lorsqu'on veut contrôler la vie des gens, on finit par mentir parce qu'on veut s'imposer sur eux. Et il y en a qui font de faux témoignages de miracles pour impressionner afin de manipuler les gens. C'est très, très dangereux. Ne cherchons pas à manipuler les gens. Cherchons à faire comme Dieu. Dieu ne cherche pas à manipuler. Il cherche à convaincre qu'il est Dieu. Si tu es convaincu, c'est toi-même qui vas te soumettre. Nous aussi, laissons que ce verset s'accomplisse, 2 Corinthiens 10, 17. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande à bien-aimer. Laissons que ce verset-là s'accomplisse. Ne cherchons pas à nous recommander nous-mêmes. Donc si les gens ne nous acceptent pas, si les enfants ne nous acceptent pas, ne cherchons pas à les manipuler par l'argent. Ne cherchons pas à les manipuler par des cadeaux. Soyons toujours dans la vérité. Laissons Dieu nous recommander à leur cœur. Ne cherchons pas à leur faire plaisir alors que nous, ce plaisir-là occasionne leur perte. Ce n'est pas bon. Ne faisons pas de compromis avec les enfants pour arracher la paix. C'est de la diplomatie humaine. Soyons toujours dans la vérité et ces enfants sauront qu'ils ont des vrais parents par la puissance du Saint-Esprit. Ne cherchons pas à manipuler les gens par des cadeaux. Ne cherchons pas à manipuler les gens en pleurant. Il y en a qui manipulent par les pleurs. Moindre problème, ils commencent à pleurer, tout le monde maintenant a pitié. Qu'est-ce qui arrive? Mais bien-aimé, moi, avec moi, si tu pleures dans la fausseté, je te donne des mouchoirs. C'est le seul acte que je peux faire, quoi. Pour ne pas que tu salisses peut-être la moquette ou le parquet, c'est des mouchoirs. Je sais que tes pleurs-là vont te conduire à la repentance. C'est une bonne nouvelle pour moi. Bien-aimé, beaucoup manipulent par la tristesse. Beaucoup manipulent par la colère. Il y en a quand ils se mettent en colère, c'est comme si l'atmosphère avait plus de poids qu'avant. Tu vois la colère de la personne, tu as l'impression que l'atmosphère est devenue comme il y a des petits murs dans l'atmosphère. Tu n'arrives plus à bouger parce que la colère remplit l'atmosphère. Et pour essayer de calmer, on fait un petit compromis et c'est de la manipulation. On peut manipuler par plusieurs manières. Dans tous les cas, vouloir s'imposer sur l'autre, c'est de la manipulation. Et ça nous poussera à mentir. Vous savez, quand quelqu'un est dans le mensonge, à un moment, il s'en rend plus compte. Il croit que le mensonge est devenu réalité. C'est ça le grand danger. C'est ça notre conclusion. Nous continuons. La logique de tous pourris. Il y a des gens qui se sont mis dans leur tête que tout le monde était pourri. Donc eux, ils ont les meilleurs. Ils acceptent un tout petit peu que eux aussi sont pourris, mais ils sont moins pourris que les autres. Tous pourris. Puisque tous sont pourris, bon, nous, moi aussi, je peux faire ma fête. On y va. Le monde entier est pourri. Ah là, tu vois, Dieu, lui, ne dit pas ça. Dieu dit dans sa parole, il a dit à Élie, tu es injuste, mais il y a encore 7000. Il y en a. Il y a des justes de Dieu. Si toi, tu crois que tous sont pourris, ça, c'est ton problème. C'est ta conception. Et il y en a qui sont dans cette conception-là. Tous sont pourris. Même le pasteur, là, on voit, c'est parce qu'on ne voit pas. Mais tout le monde est pourri. Même s'il n'a rien à dire. Il y a des gens, ils n'ont rien à dire sur les autres. mais ah, tous sont pourris. Voilà, tous sont pourris. Donc, finalement, moi aussi, je peux faire ma vie comme je veux. Et les gens en disant tous pourris, mensonge. Et après, tu t'inscris officiellement toi-même dans le mensonge. Attention, bien-aimé, c'est dangereux. Tous ne sont pas pourris. Ne cherchons pas à enlever le jugement sur nous-mêmes en disant tous pourris. Comme ça, nous, on est exonérés du jugement. C'est faux. Il y a un juste juge. Au moins, Jésus-Christ n'est pas pourri. Jésus-Christ est juste. Il a dit dans Jean 8, 46, « Qui me convaincra de péché ?» L'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Tous ne sont pas pourris. Bien-aimés. Étienne, lorsqu'il mourait, Jésus-Christ était debout. Bien-aimé, la Bible dit que Jésus-Christ est assis. Hein? Mais quand Étienne mourait, il était debout. Donc, on voit quel attachement il avait pour Étienne. Et donc, en ce moment-là, Étienne mourait, Jésus-Christ reprenait son esprit. Bien-aimé. Donc, il y a des justes. Il y en a eu et il y en a toujours. Donc, au lieu de chercher à dire tous pourris et moi, je fais ma vie, reviens à la parole qui nous montre qu'il y a des justes et qu'il y en aura toujours. Parce que Dieu a dit une parole extraordinaire dans Matthieu 16. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, sur toi, Pierre, sur ce roc que tu viens de confesser, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts n'auront pas les dessus sur elles. C'est-à-dire qu'il y a une vraie église de Jésus, des humains qui ne se sont pas laissés submerger par Satan. Il y en a, puisque Jésus l'a promis. Nous continuons. Il y a plusieurs points à dire dont on doit se débarrasser. Et certains ont été dits pendant tout ce camp biblique. Mais je vais conclure en disant ceci. 2 Thessaloniciens 2 nous prévient qu'il y a une forte séduction qui a déjà commencé. Parce que la Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a certains qui attendent de voir l'Antichrist pour voir qu'il y a des miracles, des faux miracles. Non, la Bible dit que ce mystère agit déjà. C'est qui écrit comme ça? C'est Paul. Il y a 2000 ans, ça agissait déjà. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas pour rien que le catholicisme s'est installé. Regardez la cassure entre le catholicisme et les apôtres. Donc, ils avaient raison de dire que ça agissait déjà. Puisque 200 ans après eux, l'Église était déjà otage des faux serviteurs. Puisque le catholicisme a régné pendant 1000 ans. Donc, les apôtres avaient raison de dire que déjà, ce mystère-là agit. Les chrétiens n'ont pas compris. Quand Constantin s'est converti, l'empereur Constantin, les chrétiens ont dit, « Oïe, l'empereur s'est converti, nos persécutions sont finies. » Parce qu'on massacrait les chrétiens. Les chrétiens ont souffert. Prison. On les livrait aux lions, on les mangeait par les lions, on tuait, on séparait les familles. Les chrétiens ont souffert terriblement, mais en souffrant, ils se multipliaient encore. Les historiens disent que quand on tuait un chrétien, 10 se convertissaient. Donc l'Église grandissait. Mais bien aimé, quand un chrétien meurt, il va où? Au ciel, c'est une joie. Donc au lieu de voir la conception de Dieu que la terre est de passage, quand nos frères meurent, ils vont au ciel. Quand on souffre, l'autorité du Seigneur devient plus forte, puisque Paul dit dans 2 Corinthiens que 12, 9, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ils ont préféré voir la paix sur terre. Quand l'empereur s'est converti, ils ont dit, aïe, nos persécutions sont finies. Effectivement, physiquement, ils étaient plus menacés. Effectivement, les chrétiens occupaient maintenant les plus grands postes. Effectivement, Constantin a traduit 50 Bibles. À l'époque, une Bible, ça coûtait une forte somme. Effectivement, Constantin a construit des temples pour les chrétiens, des bâtiments. Effectivement, être chrétien est devenu quelque chose de luxueux, de bien dans la société. Mais c'est là que l'Église a été prise en otage par la politique et finalement par le système des papes. Et les papes dirigeant les pays, maintenant, l'Église était otage des militaires et de la politique. Juste pendant 1000 ans. Et vous savez, ce n'est pas nous les chrétiens qui en parlons. C'est les païens qui, dans l'histoire, appellent ça les 1000 ans de ténèbres. De l'an 400 à 1400, on appelle ça les 1000 ans de ténèbres. Pas par nous, les chrétiens, mais par les païens. Parce que pendant ces 1000 ans-là, le catholicisme contrôlait tout, la vie des familles, la vie des couples, les universités. Tout était contrôlé par le catholicisme. De la naissance à la mort d'un individu. 1000 ans de ténèbres. Toute l'humanité a été suspendue pendant 1000 ans par le catholicisme. Pourquoi ? Parce que les chrétiens n'ont pas vu venir cette puissance-là, qui est un mystère. Souvenez-vous de comment la Bible appelle le catholicisme en Apocalypse. Et la Bible l'appelle un mystère. Babylone, la grande. C'est un mystère. Un mystère, ça veut dire que tu ne verras pas ça avec les yeux normaux. Avec la connaissance simple, tu ne peux pas voir. Tu peux que recevoir ça par révélation de Dieu qui te dit, voilà le problème. Bien-aimé, il y a des prédicateurs aux États-Unis. Si tu les écoutes, tu ne peux pas imaginer que c'est un faux. Un jour, je suivais une émission où c'est, je cite son nom puisque, Benny Hinn recevait un autre, je crois Miles Monroe. Et bien-aimé, ce Miles Monroe, il prêchait sur le royaume de Dieu. Si tu entends la prédication, tu dis non, non, non. Lui, il descend du ciel. Mais entre, dans une pause, avant que Miles Monroe reprenne, donc Benny Hinn lui posait des questions. Et à une pause, Benny Hinn fait passer une publicité. Publicité d'une chaînette, d'un collier, avec un médaillon. Et ce médaillon, c'est quoi? Ce médaillon, c'est un ange, un petit ange. Je crois qu'il y avait une sorte de lance ou de flèche. Et il donne le prix de cette chaînette-là, de ce collier, et il dit, et l'ange, c'est en fonction du psaume 91, il enverra tes anges te protéger. Bien-aimé, vous croyez que quand quelqu'un va acheter ce collier-là, mais il va mettre, vous croyez qu'il ne va pas mettre foi en ce petit ange-là? Puisqu'on lui dit que c'est en référence à ce verset-là. Mais tout ça, ça se fait quoi? Pendant que, il est en train de prêcher quelque chose qui paraît très vrai et extraordinaire, l'autre glisse quelque chose de très faux et de idolâtrique, dangereux, ce que Dieu appelle abomination. Il glisse ça. Mais vous croyez que les deux ne sont-ils pas complices? Ils sont complices. Parce que si l'autre était dans la vérité, il allait dire stop. Il ne l'a pas dit. Il a continué sa prédication extraordinaire. Bien-aimé, je suis honnête avec vous. La prédication de l'autre, je ne pouvais pas voir d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur à mon niveau, en tout cas. Mais ils sont tous complices. C'est ce que la Bible dit dans... notre Seigneur Jésus dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. L'autre prêchait quelque chose de vrai, mais avec des éléments extraordinaires qui séduiront tout chrétien. Et l'un glissait le levain. De sorte que quand quelqu'un prend, il prend tout et il meurt à petit feu. Bien-aimé, attention à la séduction. Elle est forte. C'est un mystère. Le seul moyen que Dieu nous donne de ne pas tomber dans cette séduction, c'est l'amour de la vérité. S'attacher à la vérité. Bien-aimé, je suis honnête avec vous. La vérité, il y a des moments, ça me met mal à l'aise. Comme ça vous met mal à l'aise. Parce que la vérité, eh bien, la réalité de voir les païens riches, de voir des présidents riches, mais qui ne connaissent pas Dieu. Comme je discutais avec un frère, il me dit, mais je connais quelqu'un qui est païen, mais il prospère dans son entreprise, mais nous avons notre frère. Ça fait 10 ans, il a fait son entreprise, mais ça ne décolle pas. Tout ça, ça fait mal. Mais quand on revient à la Bible, on se dit, mais non, nous avons notre richesse sous une autre forme. Elle n'a pas la même forme. Mais il y a un moment où ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir, tiens, ça fait 15 ans que je suis chrétien, il y a encore telle tentation qui m'attaque. Ça nous fait mal. Mais il y a un verset qui dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces. La vérité nous met parfois tous mal à l'aise. Mais aimons-la parce qu'elle est la vérité. C'est elle la réalité. La vérité nous montre que Dieu est tout puissant et que nous, on n'est même pas comparable à un grain de sable devant la grandeur de Dieu. Acceptons cette vérité. Ne contestons pas parce qu'on a la capacité de construire un avion. Ne contestons pas parce qu'on sait résoudre une équation mathématique. Ne contestons pas Dieu parce qu'on a un CDI. Bien-aimés, reconnaissons qu'on n'est rien du tout. Tout cela peut être balayé. Aujourd'hui, Chrysler tombe en faillite alors qu'ils ont un gratte-ciel. À l'époque, dans les années 30, il y avait une guerre entre Chrysler et General Motors qui va construire le plus haut building. Aujourd'hui, il tombe en faillite. Donc tout passe. Le communisme est tombé en faillite. Tout passe. Qui peut se comparer avec Dieu? Acceptons la réalité, bien-aimés. La réalité, maintenant, nous montre notre image. Mais il y a une autre réalité. Les propositions de l'autre camp, la séduction de l'autre camp, c'est aussi une réalité. On ne peut pas nier qu'il y a de fortes séductions, de fortes propositions. Mais nous avons une réalité plus forte. Je recommence. Deux réalités nous déstabilisent. L'image de nous-mêmes. L'image de l'apparente prospérité des païens. Ça, c'est ensemble, parce que c'est nous qui voyons cela comme ça. Deuxième réalité, les séductions du monde, l'attraction du monde, ça nous déstabilise. Mais on a une réalité qui est supérieure à celle-là. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Elle est permanente, vivante et éternelle. C'est la parole qui s'accomplit. Tout le reste passe. La parole s'accomplira toujours. Il y a un chanteur du monde qui a dit dans mon pays d'origine, même les magiciens meurent. Finalement, ce monde appartient à quelqu'un d'autre. Parce que les magiciens dans les pays d'Afrique sont considérés comme des dieux. Mais ce chanteur l'a dit, même eux, ils meurent aussi. Donc ce monde... C'est la vérité, bien-aimé. Ce monde appartient au Seigneur. Ne soyons pas déstabilisés par la réalité de nous-mêmes en tant qu'êtres faibles, ni par les séductions du monde. Souviens-toi qu'il y a 5 jours, il y a une semaine peut-être, tu as mangé un très bon plat, mais où est-ce qu'il est maintenant? Souviens-toi, tu as fait un tour dans un parc d'attractions, tu as été content, mais où est le parc aujourd'hui? Souviens-toi de tel acteur de cinéma qui est mort aujourd'hui. On a regardé le match Chelsea-Barcelone, mais bien aimé, vous avez vu les pleurs des gens de Chelsea, jusqu'à 93e minute, ils menaient 1-0, et à la 93e minute, on égalise, ils perdent le match. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais voilà, ce qui est du monde, c'est à double tranchant. Pendant 90 minutes, tu es le chef, tu as la joie. Une minute suffit pour effacer les... Tu as même envie, tu te dis, moi j'ai dit, mais j'aurais pas dû perdre mon temps à regarder ce match, parce que voilà, mais voilà, maintenant déçu. Parce que quand tu regardes, tu te dis, on a gagné 81 minutes seulement. Tu dis, mais pourquoi j'ai perdu mon temps? Moi, c'est la question. Quand mon équipe perd, je dis, mais pourquoi j'ai perdu mon temps? J'aurais dû seulement entendre ça aux infos. Et quand tu vas entendre aux infos, ils ont gagné. Et donc, prochainement, tu viens regarder, ils ont perdu. Mais bien aimé, tout ça, c'est vanité et vanité. Qu'est-ce qu'on a envié? Tout cela, bien aimé. Voyons les Brigitte Bardot, c'est qu'elles sont devenues. Toutes ces actrices, qu'est-ce qu'elles sont devenues? James Brown. Je crois qu'il est déjà mort, mais... drogué. Bobby Brown. Prison. Je me souviens quand j'étais encore jeune, mais les Bobby Brown, c'était des mini-dieux. Mais aujourd'hui, il est où? 8 enfants hors mariage, je crois, environ. C'est ça une vie? Prison, drogue. Bien-aimé, tu ne peux pas t'imaginer combien ces gens-là t'envient que tu sois esclave ni de la drogue, ni de la cigarette, ni du mensonge, ni de femmes. Ils ne souhaitent que ça, mais c'est trop tard, ils sont dedans. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as pas de copine, tu n'as pas de copain, tu t'en plains. Mais eux, ils ne demandent que ça. Être libéré de ça. Mais toi, tu te plains, tu crois qu'eux, ils sont d'accord avec leur vie. Non, ils sont esclaves. Ils sont esclaves. Bien-aimés, revenons à l'amour de la vérité. Regardons ce que Dieu nous propose. Il nous dit, il y a de la joie au ciel lorsque une seule personne s'est convertie. 2, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, j'entre, je mange avec lui. Bien-aimé, tu as beau servir le monde, le président Sarkozy ne viendra pas manger chez toi. Tu as beau servir ton entreprise, ton PDG ne viendra jamais manger chez toi. Un frère m'a parlé d'un collègue d'entreprise qui était hospitalisé, opération des intestins. Il a quitté l'hôpital alors qu'il n'était pas guéri totalement pour venir servir à l'entreprise. Il ne voulait pas s'absenter. Mais il a été licencié dernièrement. Donc il a failli donner sa vie pour l'entreprise. Mais quand il a fallu licencier, on l'a licencié. Mais Dieu nous dit qu'il sera toujours avec nous. Bien-aimé, ce que Dieu propose est infiniment plus beau. Dieu nous dit dans Proverbes 21:1, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Une femme, une épouse qui a du mal à se soumettre, à t'aimer, un mari qui a du mal à t'aimer, à se soumettre, Dieu dit, son cœur est comme un courant d'eau entre ses mains. C'est lui qui inclinera. Mais c'est la meilleure promesse que vouloir mettre de lingerie sexy ou bien de coiffure compliquée, bien-aimé. Dieu a des promesses. Parce que ce que toi tu mets là, beaucoup de gens mettent ça aussi. Donc, mais ce que Dieu fait, personne ne peut imiter. Lui seul peut toucher les cœurs. Bien-aimé, c'est ça la réalité. Dieu dit quoi? Que les oiseaux mangent. Sans CDI, sans CDD, sans intérim, ils mangent. Alors, à combien pour faire raison, toi, bien-aimé, nous n'avons qu'une porte à franchir, celle de la foi. S'il vous plaît, prions que Dieu nous donne la foi. La foi. 40 ans, Israël a mangé la manne. La Bible dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pourquoi nous décevons Dieu? Pourquoi nous ne voulons pas juste avoir foi, avoir honte? Bien-aimé, quand on a foi, on a honte parce que les gens trouvent qu'on est bête. Mais on franchit les portes du ciel, du miraculeux. Pourquoi? On ne veut pas faire exception. Les gens disent qu'il faut marquer notre temps. Mais marquons-le en imitant Jésus. Pas en voulant être les meilleurs, je ne sais dans quoi. Marquons-le en croyant comme Élie a cru, comme Élisée, vous vous imaginez. Aujourd'hui, le général des États-Unis, le chef des armées des États-Unis venir en France te visiter, toi, serviteur de Dieu, parce qu'il a besoin de toi. Vous vous imaginez que tu ne le reçois pas, tu dis à ton serviteur, va l'amener à la Seine là-bas qui se lave, et puis qu'il rentre chez lui. Bien-aimé, je peux vous dire que si ça se passe maintenant, vous allez voir que les pasteurs vont prendre ce général, ils vont mettre à la première place, ils vont l'accueillir dans un restaurant 10 étoiles, et ainsi de suite, bien-aimé. Mais Élisée a obéi à Dieu, dit non, mais c'est un homme. Mon Dieu, c'est le véritable général, ça ce n'est qu'un homme. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu dit, laisse-le partir avec Géasi. Toi, tu restes à la maison. Bien-aimé, parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait que son Dieu est plus grand. Il est plus grand, bien-aimé. Aujourd'hui, quand nous allons évangéliser dans certaines églises à gauche, à droite, ou dans certains groupes chrétiens, ils veulent nous donner l'argent de transport. Moi, je dis, mais bien-aimé, moi, je dis, mais c'est pas vous qui allez me payer. C'est Dieu qui va me payer. Vous voulez me donner quoi? Moi, je suis venu vous donner la grâce totale de Dieu. Et le transport, et la prédication, et tout, afin que vous reconnaissiez que Dieu est grand. Parce que si vous me donnez l'argent, quelque part vous avez échangé avec Dieu, je refuse. Il faut que l'honneur de mon Dieu soit valable. Bien-aimé, c'est cela la vérité. Dieu ne monnayera pas ses services. Il est grand. Il faut qu'il soit considéré grand dans tout. Mais il cherche des gens qui vont mettre de côté la fausse vérité. Telle que nous nous voyons, telle que le monde nous séduit. Mais pour choisir ce que Dieu nous pose dans sa parole. Qui va relever les défis d'aimer la vérité? La Bible dit, un jour Jésus-Christ apparaîtra. Il consumera ce système-là corrompu. Et ceux qui ont aimé la vérité, ils seront dans l'allégresse des milliards d'années. Ils diront, enfin, le Sauveur est là. Je me souviens de la joie des anges quand Jésus est descendu sur la terre. Ils ont dit, oh terre, si vous savez ce qui vient de se passer là, paix aux hommes, que Dieu agrée. Mais qui c'est que Dieu agrée? Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Merci Seigneur de nous aider à aimer la vérité afin de rester fidèle à ta parole et fidèle dans l'attente de la délivrance finale. D'aimer la vérité afin que ta nature se manifeste au Père. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu es tout puissant, mais tu es véhiculé par des êtres faibles que nous sommes. Il ne faut pas que notre faiblesse gâche ton image, Seigneur, car ta puissance est plus forte que notre faiblesse. Oh Seigneur, aide-nous à nous attacher à ce qui est écrit, même si notre chair est faible. Mais ta puissance est plus forte. Alléluia. Seigneur, nous voyons des ballons, des dirigeables, qui sont des ballons remplis d'air, qui sont tellement fragiles, il suffirait qu'on mette une pointe d'aiguille, ça va éclater. Mais nous voyons ces ballons transporter des humains, faire des voyages. Oh Seigneur, nous voyons, Seigneur, les mouches. Les mouches, elles ne pèsent même pas, Seigneur, 100 grammes. Mais elles arrivent à voler, à faire des voyages, Seigneur. Quelle puissance tu as, ô Éternel. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que nous sommes plus que les mouches. Si les mouches arrivent à voler, à se déplacer, si le papillon arrive à voler, Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire avec nous, Seigneur? C'est pourquoi il est écrit, rien n'est impossible à toi, ô Dieu, et tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Nous voulons mettre notre confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous amène à nous accrocher à toi. Seigneur, que cette journée se termine par une soumission totale de nos cœurs à ta vérité. Que nous te disons, Seigneur, nous sommes faibles, c'est vrai. Mais toi, tu es tout puissant pour nous changer, tout puissant pour nous purifier. Alléluia. Merci pour ta parole, ô Éternel. Merci. Nous mettons les offrandes pour la gloire de Dieu. Lumière. Donné aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentiment.
tiens. Par elle, je veux me laisser guider.
Et fais ta volonté.
Et fais ta volonté. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté.
Merci pour ta parole.
Merci pour ta parole.
Lumière,
lumière donnée aux hommes.
Oh, aide-nous à reconnaître cela, Seigneur.
Fais connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur.
Elle est la vérité.
Elle est la vérité.
La vérité
sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider. Et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté.
Je crois,
je crois en tes promesses. Parole, Seigneur, elle est la vérité,
la vérité.
Vérité, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance par la foi, nous marcherons.
Par la foi,
nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
Celui qui met en Jésus,
celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus. Compléter sa délivrance
par la foi,
nous marcherons,
par la foi,
nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que
Quand Satan veut te troubler.
Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance.
Par la foi, nous marcherons, oh, nous marcherons.
Par la foi, nous triomphons,
oh, par la foi.
Par la foi,
mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai.
Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je en tout temps de mes détresses,
par la foi,
nous marcherons,
par la foi,
nous triomphons,
par la foi.
Mon Rédempteur
me rendra plus que vainqueur.
Oh,
par la foi, nous marcherons.
Par la foi,
par la foi,
par la foi,
nous
triomphons.
Par la foi, par la foi.
Mon Rédempteur
me rendra plus que vain.
Oh, par la foi,
par la foi,
par la foi,
nous marcherons,
à la foi,
nous prions.
Oh, par la foi,
par la foi.
Oh, alléluia.
Par la foi,
oh, par la foi,
mon Rédempteur me rendra plus que.
Seigneur, par la foi nous marcherons, car la Bible dit le juste vivra par la foi, Seigneur. Notre frère Habacuc, Seigneur, il disait que le malheur vient, les choses vont se corser, vont devenir difficiles, mais il dit, je veux me réjouir quand même dans le Dieu de mon salut. Celui qui rend mes pieds semblables à ceux de biche. Alléluia, Seigneur.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, il n'y a point de Dieu.
Comme Jésus,
oh, il n'y a point,
il n'y a point,
il n'y a point de Dieu.
Comme Jésus,
oh, il n'y a
point, il n'y a point,
il n'y a point de Dieu.
Comme Jésus.
dans le ciel et sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
Oh, il n'y a point.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
Il n'y a point. Il n'y a point
de Dieu comme Jésus. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'y a point
de Dieu comme Jésus.
Oh, il n'y a point,
il n'y a point
de Dieu
comme Jésus.
Un Dieu si bon, Seigneur. Un Dieu merveilleux. Qui oublie le péché qu'il a pardonné, Seigneur. Un Dieu qui pardonne aux plus vils des pécheurs. Oh Seigneur, un Dieu qui accueille les rejetés. Oh, il n'y a point. Celui qui a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Alléluia. Celui qui a sauvé Paul sur le chemin de Damas. Celui qui a dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Il n'y a point.
Oh, il n'y a point. Oh Seigneur, Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 53, par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est pourquoi il dit dans Marc 10, allez, guérissez, ressuscitez les morts. Annoncez la bonne nouvelle. Oh Seigneur, que le faible dise qu'il est fort. Que le pauvre dise qu'il est riche. Oh, il n'y a point.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
Il n'y a point.
Il n'y a point.
Celui qui a dit à la femme dans Jean, au chapitre 8, moi aussi je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Alléluia. Alléluia. Celui qui a libéré les démoniaques de Gadara. Oh, il n'y a point.
Il n'y a point.
Celui qui a multiplié les pains. 5000 ont mangé.
Il n'y a point de Dieu comme Jésus.
Il n'y a point. Celui qui a ressuscité Lazare.
Oh, il n'y a point de
Oh, il n'y a point. Alléluia, Seigneur. Oh, oh Seigneur, l'apôtre Pierre a dit à Aîné, Jésus-Christ est guéri, lève-toi. Alléluia. Et aujourd'hui, ça continue encore.
Il n'y a point.
Le Dieu qui m'a sauvé, qui m'a ouvert les yeux sur la vérité, c'est toi, Seigneur. Comment ne pas te louer? Il n'y a que toi, Seigneur.
Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Toi seul peux nous amener, Seigneur, dans la vraie dimension de foi, Seigneur. Nous te prions maintenant, Seigneur. Nous te prions de nous transformer.
Il n'y a que toi.
Toi seul, Seigneur, peux changer les cœurs, Seigneur. Le cœur de pierre en cœur de chair. Toi seul as vaincu. La mort, toi seul as vaincu l'impudicité, toi seul as vaincu l'avarice.
Il n'y a que toi, Seigneur.
Oh Seigneur, nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur. Si toi tu nous lâches, Seigneur, qui va nous sauver?
Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh Seigneur, merci d'agir Seigneur, pour faire de nous Seigneur, de vrais disciples. Nous crions à toi Seigneur, agis, que l'esprit de vérité réveille ton peuple Seigneur. L'esprit de vérité, agis Seigneur. L'esprit de vérité, alléluia. Que le mensonge quitte ton peuple, Seigneur. Que le mensonge quitte ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons la lumière, la transparence, la franchise. Au nom de Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Merci Seigneur pour ta présence, pour tout ce que tu vas faire, car tu es Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 3:20, Seigneur, c'est toi qui le dis, tu fais au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, Seigneur. Tu connais les désirs de nos cœurs, mais nous savons que tu vas faire plus. Tu vas faire plus parce que tu nous aimes tant que tu as accepter que ton fils meure pour nous. Alors qu'est-ce qui peut être plus que cela? Nous croyons que tout ce que nous attendons est moins que cela, Seigneur. Et donc tu vas nous le donner, Seigneur. Parce que Jésus s'est donné à la croix, Seigneur, pour un plein salut, pour un grand salut pour tes enfants. Et nous voulons un réveil au milieu de tes enfants. Non pas un réveil pour épater les gens, Seigneur, mais un réveil pour manifester ta nature. Vive tes promesses, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons pour toutes choses, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur, pour ta présence. Tu aimes les petits, Seigneur. Tu aimes les petits, Seigneur. Tu as dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Aide-nous à croire, Seigneur. Aide-nous à croire. Et à nous reposer sur toi. À ne pas chercher à nous créer notre propre vérité, notre propre réalité, pour fuir la réalité qui est en face de nous. Mais que nous puissions plutôt adopter la réalité de ta parole, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles, Père. Merci de nous avoir adoptés comme tes enfants, tes fils et tes filles. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.